Dans la continuité finalement de cette première plénière, on va être encore à travailler autour des questions un petit peu funambulesques, des limites et peut-être, on parlait tout à l'heure, des limites entre le normal et le pathologique. Et là, on s'intéresse à la question du corps qui peut-être peut s'exprimer comme une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et je suis assez... Je me trouve peut-être justement à cette place centrale entre un côté le sociologue qui va peut-être réfléchir aux questions des afférences extérieures et peut-être du psychiatre avec qui d'ailleurs on avait eu l'honneur de travailler déjà ensemble l'an dernier sur les troubles alimentaires, peut-être s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe à l'intérieur et dans l'intériorité et dans le psychisme des sportifs et pour voir peut-être, et on essaiera de ne pas en faire une frontière, même si parfois le corps qu'on entraîne, qu'on surentraîne, qu'on tord, qu'on remue dans tous les sens pour arriver à des fins performantes, on va essayer de voir que peut-être ce corps qui s'érige parfois en armure peut être aussi un espace de passage, un espace d'échange entre justement l'intériorité et l'extériorité, et que c'est autour de toute cette dialectique entre ces deux mondes qu'on va pouvoir... trouver quelque chose de subtil et d'intéressant dans l'acte sportif. Donc je vais rapidement... passer la parole, parce qu'on m'a dit que notre timing était déjà très très serré, pour 15 à 20 minutes pour la première intervention donc de Mathieu Dubois de la Barre.
Merci. Je vais commencer par me présenter. Donc je suis sociologue, je suis actuellement postdoctorant dans l'unité INSERM U897 et plus précisément dans l'équipe d'épidémiologie de la nutrition et des comportements alimentaires qui est dirigée par Pascal Babergé-Gâteau, donc à l'Université de Bordeaux 2, à l'ISPED. Mais je suis également cofondateur de REVES, donc une boîte de consultance en santé publique et en sciences humaines et sociales. Alors, concernant la sociologie, ma spécialité est la sociologie de l'alimentation. Et par rapport à ça, je me suis particulièrement intéressé aux relations qu'il existe entre l'alimentation et l'image du corps. Entre autres, au travers de travaux de recherche que j'ai effectués sur l'expérience du régime au féminin, mais également actuellement, je m'intéresse à la question du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. Alors, lorsqu'on m'a invité à participer à ce colloque, et chose pour laquelle je remercie hein, les responsables, et qu'on m'a demandé de réfléchir à la relation entre normes et pathologiques, un thème s'est imposé d'emblée à moi de manière relativement évidente. Et c'est un thème qui va nous éloigner un petit peu du sport, puisqu'il correspond... Il correspond à ma spécialité, les questions qui concernent l'alimentation et l'image du corps. Ce thème, c'est la relation qu'il existe entre une norme esthétique contemporaine, qui est celle de la minceur, et deux pathologies, l'obésité et l'anorexie. Alors, je crois que, il me semble qu'il y a deux questions que nous pose cette relation entre l'émergence de cette norme et ces pathologies. La première question, c'est au fond, qu'est-ce qui fait que lorsque l'on ne respecte pas la norme, on peut être amené à être défini comme pathologique. Là, on est dans la question du surpoids et de l'obésité. L'autre question, qui est une question un petit peu en miroir, un petit peu inverse, c'est qu'est-ce qui fait que lorsque l'on respecte la norme, voire qu'on la surrespecte, cela conduit également aussi à des comportements pathologiques. Et là, on est plutôt dans la question de l'anorexie. Alors évidemment, je ne vais pas apporter, loin de là, des réponses définitives à ces questions, probablement parce qu'elles n'en ont pas, mais je voudrais apporter un certain nombre... d'éclairages qui permettent de poser la complexité des relations entre cette norme, la minceur, cette norme esthétique, et ces deux pathologies. Et j'espère en tout cas enrichir la réflexion sur les relations entre cette norme et ces pathologies. Mon exposé se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer un petit peu de caractériser cette norme de la minceur. Qu'est-ce qui en explique son émergence? Quels sont, ses attributs? Et surtout, j'essaierai de vous montrer que c'est une norme qui est sexuée. La minceur ou la grosseur au masculin n'est pas la minceur au féminin. C'est, on le verra, des choses qui ne sont pas tout à fait semblables. Puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de voir un petit peu quels sont les jeux, les enjeux qui tournent autour de l'émergence de cette norme et, d'une certaine façon, la médicalisation de l'image du corps, que sont les questions qui tournent autour de l'obésité et de l'anorexie. Alors, concernant le premier point, alors, je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce qui est vraiment important, c'est que les normes sociales, culturelles qui touchent au corps sont extrêmement variables, et ce, tant d'un point de vue historique que culturel. Mais de ce point de vue, quand on a dit ça, on se rend compte, enfin les anthropologues en particulier qui ont travaillé sur ces questions, se rendent compte de manière assez majoritaire, c'est plutôt la norme esthétique du gras, du gros, qui a été valorisée. Et si on parle de manière un petit peu plus précise en ce qui concerne notre ère géographique, notre civilisation, en Occident, depuis la Renaissance, c'est plutôt le modèle bien en chair, voire parfois l'obésité, qui a été la norme esthétique, positive et valorisante. Alors, de ce point de vue, on peut dire que l'émergence du mince, l'émergence de la minceur comme le modèle esthétique dominant, est une certaine forme de rupture historique. Et cette rupture, elle s'inscrit de manière différenciée en fonction des sexes. Alors, je vais commencer par les hommes. Donc, en ce qui concerne les hommes, y a quelque chose qui est tout à fait fondamental dans le rapport entre le corps masculin et la question du poids, c'est que le corps et la graisse de l'homme posent, interroge de manière importante la question du partage de la nourriture, ou autrement dit, la question de la richesse et du pouvoir. Au fond, la graisse, le gros, inscrit dans le corps votre statut social. Être gros, être gras, c'est votre capacité à accéder à des sources de nourriture plus importantes et donc avoir une certaine position dans le lien social. Et de ce point de vue-là, ça a été pendant très longtemps, et ça l'est encore dans certaines cultures, le fait d'avoir des capacités à avoir de la graisse est quelque chose de vécu de manière tout à fait positivement. En fait, au cours du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a un double renversement de ce point de vue-là. Premier renversement, dans des sociétés de plus en plus démocratiques, de plus en plus égalitaires, cette perception positive du gros homme de pouvoir, comme on disait au XIXe siècle, l'homme qui a du poids, au sens du poids social, et aussi un homme de poids au sens physique, devient quelque chose de négatif. Le gros est celui qui mange plus que sa part. Le gros est un égoïste qui va s'emparer, finalement, qui va trahir l'égalité, qui va trahir les idées démocratiques. On le voit bien, d'ailleurs, dans l'iconographie, que ce soit l'iconographie anticapitaliste ou l'iconographie tiers-mondiste, on a le gros capitaliste ou le gros du Nord qui affame, qui spolie l'ouvrier, ou qui affame, ou qui spolie le Sud. Donc, premier retournement, le gros masculin, qui était synonyme de pouvoir, de richesse, d'une certaine forme de distanciation vis-à-vis de la nécessité, devient un gros vampire qui prend plus que sa part, il y a une condamnation morale du gros en tant qu'égoïste. Ça, c'est un premier retournement. Deuxième retournement très important au XXe siècle, c'est que, quelque part, cette transgression du gros qui prend plus que sa part devient pitoyable. Car au fond, au XXe siècle, on passe, en particulier à partir de la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on passe d'un monde du manque alimentaire, à un monde de l'abondance alimentaire. Et de ce point de vue-là, vouloir prendre plus que sa part devient un but assez peu efficace, assez peu recherché, assez peu valorisé. Au fond, on passe d'une logique du gros qui a le pouvoir de prendre plus à une logique où ce qui compte, ce n'est pas de prendre plus de nourriture, c'est une logique de bien-être, dont entre autres la santé fait partie. Et cette logique, ce n'est pas une logique de pouvoir prendre plus, c'est une logique de maîtrise, de contrôle de soi. Et de ce point de vue-là, donc, un, le gros est vu comme, d'abord, a été vu comme celui qui est égoïste, celui qui prend plus de sa part. Et deuxièmement, le gros devient celui qui transgresse de manière pitoyable une norme qui n'est plus la norme qui est recherchée, puisqu'au fond, ce n'est plus valorisé de prendre plus que sa part. Dernier point sur le gros au masculin, ou le mince au masculin, c'est que il y a la possibilité, il y a une certaine ambivalence par rapport à l'homme et au gros, il y a la possibilité, alors je vous ai décrit le mauvais gros, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a la possibilité aussi également d'être un bon gros. C'est-à-dire que si le gros peut, d'un point de vue social, échanger ce qu'il a pris en trop dans la société. Alors, les bons gros, c'est quoi? C'est d'abord les travailleurs de force. Certes, ils ont pris de la graisse, mais ils la rendent au travers de leur force et de leur travail. C'est un certain nombre de sportifs, les haltérophiles, les avant rugby. Certes, alors d'ailleurs, leur graisse est plus vue comme du muscle que comme de la graisse. Mais certes, ils ont probablement pris plus qu'il ne fallait, mais ils le rendent en termes de force. Ce contre-don du bon gros, c'est pas que une question de force physique, c'est aussi une question d'humour. On a tous ces figures de gros comiques, De Vos, Hardy, etc., qui rendent le trop-plein par de la dérision, par de l'humour, mais également aussi l'homme de pouvoir, l'homme politique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, là aussi, il y a une association, l'homme politique gros, rond, et mieux vu que l'homme sec. Chirac a souvent dit qu'il avait souffert de son physique un petit peu sec, en tout cas au début de sa carrière. L'homme politique rend au travers du bien public...
Pardon, excusez-moi. Oui, je disais mal le micro. Donc voilà, il y a cette idée, cette possibilité pour le gros de rendre ce qu'il a pris en trop. Alors maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe du côté féminin. Alors du côté féminin, les choses sont un petit peu plus dures pour vous, mesdames et mesdemoiselles, puisque, alors, contrairement à l'homme, la question du gros pour la femme, d'un point de vue anthropologique, est une question qui est liée à la fécondité et à l'attrait sexuel. C'est-à-dire que la valorisation du modèle, ce que les anglo-saxons appellent « plopness », bien en chair, est une valorisation qui a une symbolique en termes de fécondité et une symbolique aussi en termes d'attrait sexuel. C'est pour ça que dans de nombreuses cultures, c'est ce modèle-là qui a été le modèle esthétique dominant pour les femmes, et d'ailleurs plus dominant pour les femmes que pour les hommes. Et de ce point de vue-là, le XXe siècle, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, est aussi l'histoire de la lutte des femmes, d'une part pour entrer dans l'espace public, sortir du domestique pour conquérir le droit de vote, pour conquérir l'accession à des espaces professionnels, etc. Et d'autre part, une lutte pour maîtriser sa sexualité et entre autres la fécondité au travers de la pilule, premièrement, et de l'avortement. Et finalement, cette autonomisation, ces luttes liées au mouvement féministe entraînent d'une certaine façon le rejet du modèle du corps calipige, c'est-à-dire le rejet de ce corps bien en chair avec des formes, parce que ce corps est le corps maternel, est le corps de la femme qui a enfanté. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, on a un rejet, au fond, on a un rejet du fatum maternel qui attachait la femme, d'une part, au fait que son destin était avant tout d'avoir des enfants, et deuxièmement, de s'occuper de l'intime et du domestique. L'entrée de la femme dans la sphère publique, la maîtrise de la femme de cette dimension sexuelle font qu'on va rejeter ce corps au profit d'un corps mince, qui est un corps mobile, qui est un corps qui est attaché aussi à la professionnalisation, au monde du tertiaire, qui est un corps qui n'est plus le corps d'une femme qui n'est que mère. Ce qui ne signifie pas que les femmes ne souhaitent plus être dans la reproduction et n'être que dans la production, mais ce qui signifie que ce n'est plus un fatum, ce n'est plus un destin, la maternité est quelque chose de choisi. Alors, ça, c'est la première caractéristique qui est tout à fait importante. Il y en a deux autres qui concernent les femmes, qui sont aussi importantes. La première, c'est que la femme, plus que l'homme, est attachée à l'idée de beauté. Au travers de la poésie, au travers de la sculpture, de la peinture, ce qui est chanté ou ce qui est sublimé comme étant l'esthétique par excellence, c'est le corps de la femme. Et de ce point de vue-là, il y a une injection beaucoup plus forte pour la femme de faire attention à son corps et à sa beauté. Donc c'était une beauté qui a été bien en chair pendant très longtemps. Maintenant, cette beauté s'incarne dans le mince et la femme se doit est plus responsable que l'homme de cette question esthétique parce qu'elle incarne, la femme incarne le beau. Et enfin, dernier point par rapport à la femme, c'est que finalement, la gestion du corps et la normalisation du corps, en particulier au XIXe siècle, s'est fait au travers du vêtement. C'est le vêtement qui moule le corps. On a un certain nombre d'ustensiles, des cerceaux, des crénolines, des gaines, des guêpières, des corsets, qui enserrent, qui moulent, qui soit gomment les formes, soit au contraire les augmentent. Donc de ce point de vue-là, on est face à un corps social qui est moulé par le vêtement. Et encore une fois, l'histoire du XXe siècle, c'est petit à petit une histoire de la libération du corps de la femme, et en particulier de la libération de toutes ses contraintes vestimentaires. Et de ce point de vue-là, cette libération fait que si la norme était construite par le vêtement, petit à petit, la norme va s'imposer directement sur le corps. Le corps qui se dénude, ou en tout cas qui affleure au vêtement, qui est de plus en plus moulé, enfin moulé, c'est, le vêtement ne construit plus le corps, mais c'est le corps qu'on voit sous le vêtement, et de manière de plus en plus directe, oblige la femme à ne plus travailler avec des accessoires vestimentaires, qui étaient parfois des accessoires presque de torture, mais l'oblige à travailler directement sur son corps au travers d'un certain nombre de techniques que sont le régime amincissant, que sont certaines techniques sportives comme le fitness, mais également, pourquoi pas, au travers de la chirurgie esthétique. Donc, voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport donc à cette norme, cette nouvelle norme, cette norme contemporaine de la minceur? Je crois qu'il y a deux choses. Première chose, c'est que c'est une norme qui est sexuée, qui s'inscrit différemment chez les hommes et chez les femmes. Nous sommes tous à la recherche de la minceur, et les hommes font également des régimes, mais l'injonction au travail sur le corps, l'injonction à la minceur est beaucoup plus forte pour les femmes. Deuxième chose, c'est si nous sommes bien face à une dimension esthétique, à une norme esthétique, en fait, cette norme esthétique s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une norme éthique de l'individu contemporain. C'est-à-dire que être mince, bien sûr, c'est respecter un certain canon de corps, mais c'est également s'inscrire dans cette éthique de l'individualisme contemporain qui est caractérisée par plusieurs choses, qui est caractérisée par le fait que les individus se doivent d'être responsables d'eux-mêmes, que ce sont des individus qui sont égaux, autonomes, et que ce sont des individus, surtout, qui doivent être capables de maîtrise et d'autocontrôle. Et vous verrez que c'est quelque chose qui a toute son importance, comme on va le voir dans le deuxième point que je vais vous présenter maintenant, rapidement. Voilà. Donc, deuxième point, discutons maintenant un petit peu des enjeux et des jeux autour de l'émergence de cette norme et des pathologies. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'obésité. Très clairement, il y a une concomitance entre l'émergence de cette norme esthétique de la minceur et la condamnation médicale du surpoids et de l'obésité. Alors, pour la petite histoire, comment ça s'est passé? En fait, c'est donc dans les années 30 et dans les années 50, aux États-Unis, parce que les assurances ont créé les premières assurances vie, elles ont demandé à des médecins de trouver quels étaient les critères qui caractérisaient des surmortalités. Et un des premiers critères qui a été trouvé, c'est le poids. Et il y a un de ces médecins qui travaillait donc pour ces assurances vie célèbres, qui s'appelle Dublin, qui a fait une étude. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit la célèbre formule « Nous creusons notre tombe avec nos dents ». Donc c'est ce fameux Dublin qui a lancé cette formule. Et il montre, au fond, que les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses ont un facteur de mortalité beaucoup plus important. Et alors, tout ça a été repris de manière extrêmement forte par l'ensemble les tables de poids qu'il a sorties vont être reprises par toutes les assurances américaines, et les assurances américaines vont effectuer une campagne de promotion auprès des médecins qui vont eux-mêmes traduire cette campagne, vont accepter, alors que cette étude est maintenant remise en question sur certains, enfin, parce que c'était une étude soi-disant épidémiologique, mais qui comportait un certain nombre de biais, et les médecins vont entamer à partir des années 50-60 aux États-Unis une grande campagne d'amaigrissement, d'amincissement de la population. Donc, amaigrissement, amincissement non plus justifié pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons de santé. Alors, cette histoire de la médicalisation de l'obésité peut éventuellement nous faire penser qu'au fond, la médecine n'a fait que avaliser, n'a fait que scientifiser l'existence d'une norme sociale. Et d'ailleurs, un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de philosophes pensent que, de ce point de vue-là, la médecine qui travaille sur l'obésité n'est qu'une vaste entreprise de normalisation du corps, plus que véritablement une entreprise de santé. Je crois qu'il y a deux éléments qui doivent nous faire comprendre que cette position est un petit peu simplificatrice et qu'en réalité les choses sont un peu plus complexes que ça. La première chose, c'est que le 19e siècle, qui n'était absolument pas un siècle où la minceur a été le modèle esthétique mis en avant, est un siècle qui condamnait également l'obésité. Et j'en veux pour preuve les écrits de Brillat-Savarin, qui dans la physiologie du goût... Alors, il faut savoir que Brillat-Savarin était le chantre, pour les femmes, de ce qu'on appelle l'embonpoint classique. Pour Brillat-Savarin, une femme mince ou maigre était d'une part une femme laide, et d'autre part une femme qui risquait d'avoir des problèmes de santé. Et donc, on ne peut pas l'accuser d'avoir comme modèle esthétique la minceur. Et pourtant, là où il va définir ce qu'il qualifie d'embonpoint classique, ça se trouve dans un chapitre où il dénonce l'obésité. Et il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, en Angleterre, enfin à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, il existe des régimes contre l'obésité. Donc il n'y a pas un lien intrinsèque fort entre l'émergence d'une norme sur la minceur et la dénonciation d'une certaine façon de l'obésité. Deuxième chose, et là je rejoindrai un petit peu ce qui a été dit par le professeur François Dubé, c'est que la médicalisation de l'obésité permet de sortir de la condamnation morale de l'obèse. D'une certaine façon, en passant par une médicalisation, vous n'êtes plus dans l'obèse, cet égoïste qui transgresse la norme sociale, l'obèse, cette personne sans volonté, mou, qui n'est pas capable de maîtrise et d'autocontrôle, mais vous êtes dans l'obèse qui est un malade. Il y a un certain nombre de causes physiologiques à cette maladie et des conséquences physiologiques, et il faut le traiter en tant que tel. Donc voilà par rapport à l'obésité. Par rapport à l'anorexie. Alors, la chose qui nous paraît évidente par rapport à l'anorexie, c'est que la diffusion sans précédent et massive de l'image idéale du corps qui est un corps mince est en partie impliquée dans la progression de cette pathologie, c'est-à-dire qu'au fond, des personnes, en voulant suivre ce qui est désirable, en voulant suivre le modèle désirable, finissent par développer des comportements pathologiques. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il existe actuellement un certain nombre de volontés qui visent à réglementer l'image du corps et l'image publique du corps. Je pense en particulier à ce qui s'est passé en Espagne, où on a demandé aux mannequins, enfin où les mannequins en dessous d'un certain IMC, en dessous d'une certaine masse, ne peuvent plus défiler. Mais je pense également à ce qui est en train de se faire en France, puisque il y a une charte signée entre les professionnels de la publicité, les professionnels de la mode et de la santé, pour essayer de réguler un petit peu l'image publique. Mais je pense que si il est probablement, le fait que cette norme soit diffusée de manière massive dans l'espace public joue dans les questions d'anorexie, je pense qu'il y a aussi autre chose. Et là, je crois que ce qui se joue aussi, c'est cette éthique de l'individualisme contemporain. C'est-à-dire qu'au fond, pour prendre un exemple, la femme qui suit un régime non pathologique, elle doit être autonome, elle doit être responsable d'elle-même, elle doit faire preuve de réflexivité, c'est-à-dire savoir ce qu'elle fait en ce qui concerne l'alimentation et pourquoi elle le fait, et elle doit faire preuve de contrôle et de maîtrise de soi. Or, ces dimensions, qui sont des dimensions plus morales et éthiques, s'ils sont conduits à un extrême, sont des dimensions qu'on retrouve dans le tableau de l'anorexie. Donc, il n'y a pas qu'une dimension de pure norme esthétique dans l'anorexie, il y a aussi, d'un point de vue sociologique, une dimension de normes éthiques, de normes qui concernent notre définition en tant qu'individu, qui sont fortement valorisées dans nos sociétés et qui conduisent à l'extrême, sont aussi des comportements anorexiques. Alors je conclurai très rapidement là-dessus. Ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que dans ces relations entre des normes sociales et des dimensions pathologiques, les choses ne sont pas forcément aussi simples qu'on a pu le penser. Le fait de ne pas respecter une norme, certes, fait de vous un individu pathologique, mais cette prise en charge médicale peut aussi permettre d'éviter certains écueils de forme de moralisation, premièrement. Et deuxièmement, si le surrespect d'une norme, dans le cas de l'anorexie, est source donc de conduite pathologique, il y a d'autres dimensions qui ne sont pas des questions de normes esthétiques, mais des normes plutôt éthiques liées justement à notre conception en tant que, enfin, de l'individualisme contemporain. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, j'étais un peu étonné quand tu parlais dans l'évolution, notamment de la norme aux États-Unis concernant l'obésité, notamment dans les années 50, si j'ai bien entendu, qu'il y avait eu le paquet qui était mis justement sur les obèses. J'avais plutôt, moi, dans mes représentations, l'idée que c'était à partir de cette époque-là que le BMI de l'Américain avait augmenté. Mais bon, c'est possible. Mais l'incitation par les assurances était donc...
C'est à partir de là que la médecine s'est emparée. Alors, il y a une correspondance, hein, mais c'est à partir de là que, donc après, à partir de ces campagnes d'assurance qui ont en fait débuté dans les années 30, mais qui ont été vraiment publicisées, et, où le lobbying des assurances a marché à plein, c'est à partir de ce moment-là que la médecine a dit il faut maigrir. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens ont maigri, évidemment, mais c'est devenu quelque chose de légitime et légitimé sur le plan médical.
Okay. Et donc, pour peut-être faire un petit peu lien avec le sportif, parce qu'on ne s'en éloigne pas forcément, mais j'aimerais qu'on s'en rapproche quand même un peu plus, le médecin du sport est aussi confronté à certaines normes qui sont imposées par la société sportive d'une certaine façon, et peut-être pourrais-tu nous éclairer sur justement son influence, qu'on voit bien que là, la médecine est aussi influente par rapport à cette norme sociale que tu décrivais, selon les différents schémas, qu'ils soient masculins, féminins ou autres.
Là, la question qui est posée, c'est au fond, en quoi la médecine construit des normes ?
D'une certaine façon, oui, pour D'accord. le sportif.
Alors ça, je ne serais pas capable d'y répondre, puisque je ne sais pas de quelle manière intervient la médecine par rapport aux sportifs, en particulier par rapport aux sportifs de haut niveau. Ce qui est clair, c'est que si on reprend la question des comportements alimentaires, qui est plutôt ma spécialité, la médecine, évidemment, édicte un certain nombre de normes diététiques, hygiénistes, et essaye, tant bien que mal, de les imposer en termes de santé publique à la population. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la médecine à la fois comme instance de normalisation, mais en même temps la médecine comme instance qui peut suivre un certain nombre de normes sociales. Je pense dans le cadre de l'obésité, c'était un petit peu l'objet de ce que j'ai voulu dire, on a d'abord une norme sociale qui apparaît, se renforce et s'impose, et c'est cette norme qui va finalement être légitimée d'un point de vue médical. Mais alors, du coup, pour certains penseurs, en particulier les penseurs proches des analyses de Michel Foucault, la médecine ne serait qu'une entreprise de normalisation, finalement, une façon d'agir sur le corps, une forme de pouvoir sur le corps. Mais je pense que c'est une analyse un petit peu trop simplificatrice. C'est-à-dire que elle est en partie ça, mais elle est aussi une instance qui permet justement de sortir de condamnation morale ou de condamnation sociale du gros, en passant à quelque chose qui est plus médical, qui est plus neutre finalement d'une certaine façon que les jugements et les stéréotypes sociaux.
Merci beaucoup. On prendra quelques questions à la fin, mais je passe tout de suite la parole au docteur Perrault, qui va plus nous parler donc des troubles alimentaires. Et c'est vrai qu'en matière de sport, on l'avait vu l'an dernier, certains troubles alimentaires sont visibles, mais d'autres peuvent appartenir aussi à la norme sportive ou s'inscrire dans la norme sportive.
Merci. Donc je vais essayer d'être bref, sinon vous allez tomber en inanition, le repas approche, et en plus je vous parle de troubles alimentaires. Donc je vais juste faire un petit rappel pour, par principe, situer le débat. Donc, j'ai centré mon regard et cette présentation sur l'existence de troubles alimentaires supposés plus importants chez les sportifs et les sportifs de haut niveau en particulier. Ces troubles alimentaires, il faut les nommer, donc l'anorexie est peut-être à la fois le plus connu, le plus médiatisé, mais pas fatalement le plus fréquent, c'est même le plus rare des trois syndromes. Le deuxième, c'est la boulimie, qui lui est à peu près deux fois plus fréquent dans la population générale. Et le reste, c'est une constellation de pathologies proches, comme l'hyperphagie boulimique ou certaines formes d'obésité, qui seraient des dérives de ces troubles alimentaires. C'est donc sous ce regard particulier des troubles alimentaires que j'ai essayé de regarder ou de retrouver dans la littérature scientifique actuelle quels sont les faits réels, de quoi on parle exactement, quelles sont les réalités des sportifs. Je vais voir si ça marche. Ça marche. Donc la première chose à vous dire, c'est que tous les sports ne sont pas concernés de la même manière par cette question des troubles des conduites alimentaires. Parmi eux, une catégorie essentielle, ce sont les sports dont une des composantes est une valeur esthétique. Alors j'ai mis ici quelques exemples, je ne sais pas si ma flèche va fonctionner, ouais. Qui sont la gymnastique, la natation synchronisée et quelques autres activités. J'ai mis au centre la danse. Alors la danse ne rentre pas exactement dans la catégorie des sports de haut niveau ou des sports de compétition, mais il est bon de savoir que c'est dans les corps de ballet et chez les danseuses qu'on a pour la première fois commencé à s'interroger sur l'existence de troubles alimentaires associés à la pratique d'une activité physique intensive. La deuxième catégorie de sport à risque par rapport aux troubles alimentaires, toutes les études là-dessus sont assez cohérentes, ce sont les sports dont la caractéristique est celle où il faut être léger et puissant. Ça indique deux choses, contrôler son poids, mais contrôler surtout le rapport masse-maigre, masse-grasse. Il faut être musclé, mais des muscles fins et efficace et surtout rien de plus pour pouvoir performer dans ces disciplines. La troisième catégorie, c'est ma roulette, voilà, je vais trop vite. La troisième catégorie de sport concernée par les troubles des conduites alimentaires plus que les autres sont les sports à catégorie de poids. C'est ceux pour lesquels il va être important de contrôler son poids, mais pas fatalement seulement vers le bas. La boxe, le judo, les sports de lutte, mais aussi l'haltérophilie, ils sont fortement concernés. Alors, autant les deux premiers concernent majoritairement, très majoritairement les femmes, autant cette troisième catégorie peut impliquer les hommes. Car il existe une différence, vous le savez, statistique considérable entre les hommes et les femmes quant au danger, au risque de développer ce type de trouble. Les femmes sont en moyenne, selon les études, on tourne aujourd'hui autour de 20 femmes pour un homme. Pour ce qui est de l'anorexie, de la boulimie, c'est plus vrai encore pour l'anorexie. Hein. Mais en moyenne, dans les troubles alimentaires, c'est pas 1 pour 10, mais 1 pour 20 qu'on estime aujourd'hui cette probabilité. Dans le sport, de haut niveau en particulier, l'écart s'est un peu amenuisé, c'est plutôt 1 pour 10, mais ça reste une spécialité fortement féminine, sauf dans les sports à catégorie de poids. Si on compare, et là c'est une étude qui me paraît très intéressante, parce qu'elle a porté sur un nombre énorme de sujets, plus de 1600 athlètes, comparé à un groupe contrôle considérable, dans une étude qui est norvégienne d'origine, qui a le sérieux et la qualité d'une excellente étude scientifique. On a comparé donc le groupe contrôle, dans lequel on a trouvé ce qu'on trouve à peu près partout ailleurs. Les troubles alimentaires et les troubles apparentés sont de l'ordre de 4 à 5 % de la population générale, sachant qu'il s'agit essentiellement de sujets jeunes, parce que les sportifs de haut niveau sont des sujets en moyenne plus jeunes que la population générale. Donc on a comparé des sujets jeunes présentant un taux normal d'incidence des troubles alimentaires à des sportifs de haut niveau, et là on voit bien que l'écart est considérable, puisque c'est de l'ordre de 3 fois plus de risques de troubles alimentaires chez les sportifs, les athlètes. cette étude a été un petit peu affinée ou détaillée en séparant le risque pour les hommes et le risque pour les femmes. C'est dans les sports où il est nécessaire d'être léger que les hommes sont le plus concernés par les troubles alimentaires. On atteint là des taux qui sont considérables, jusqu'à 22% de ces personnes, de ces sportifs hommes, sont atteints par les troubles alimentaires dans ces catégories de sport. Alors que dans l'endurance, on chute à 9%, et les sports de balle, les sports d'équipe, etc., quasiment arrive au taux de la population générale. Concernant les femmes, une catégorie supplémentaire s'ajoute, c'est les sports à composantes esthétiques, comme on l'a vu au début. Et là, les chiffres sont effrayants, puisqu'on est près de la moitié, 42% des femmes faisant ce type d'activité sportive sont directement concernées par un trouble alimentaire avéré. Elle reste à 24% dans les catégories où il s'agit d'endurance. Les sports à caractéristiques techniques, c'est-à-dire les sports où il s'agit d'être habile ou précis, donnent 17% d'incidence. Et dans les sports de balle, ou les sports d'équipe, on obtient des taux qui sont largement supérieurs à la population générale quand même, mais qui restent sensiblement inférieurs aux sports à composantes esthétiques. Si on veut maintenant entrer un petit peu plus dans le détail, une autre étude qui elle aussi porte sur un assez grand nombre de sujets a été faite en Espagne par des équipes sérieuses au niveau scientifique. Alors, on considère, comme je vous le disais tout à l'heure, que les femmes restent majoritairement concernées par les troubles alimentaires par rapport aux hommes. Il reste à débattre des facteurs ou des causes, mais c'est toujours aussi net. Cette étude a eu le mérite de pointer un phénomène, c'est que quand il s'agit de troubles alimentaires pour un homme, c'est beaucoup plus souvent de boulimie qu'il s'agit que d'anorexie. Finalement, l'anorexie féminine reste largement majoritaire dans la population générale, et dans les sportifs, ou dans le cas où les sportifs présentent un trouble alimentaire, c'est encore très rare d'avoir des hommes anorexiques. C'est beaucoup plus souvent la boulimie qui les concerne. On confirme dans cette étude que les sports à valeur esthétique ont comme point commun, mais c'est une évidence, et on le reconfirme ici, qu'ils exposent au regard des autres ils confrontent l'image du corps au jugement des autres, et que c'est certainement ça qui est essentiel. Mais là où cette étude est intéressante, c'est qu'elle ajoute une dimension. Ils ont évalué l'incidence parmi les facteurs qui peuvent concerner ces sportifs et qui peuvent les pousser vers un trouble alimentaire, l'incidence du rôle des entraîneurs et de la pression qu'ils exercent sur leur sujet. Cette pression semble être d'autant plus importante qu'on a un trouble alimentaire de type boulimique. Il n'existe pas que des facteurs liés à la pratique ou à la nature du sport, il existe aussi des facteurs personnels. Et c'est un peu ce qu'on avait présenté, d'ailleurs, je me rappelle, l'an dernier. On s'était demandé qu'est-ce qu'il y a de commun entre les personnes qui pratiquent le sport de haut niveau et ceux qui développent un trouble alimentaire, et pourquoi y aurait-il une telle coïncidence. Finalement, les études ne montrent pas toutes des résultats cohérents. Par contre, elles sont presque toutes d'accord sur le fait que le perfectionnisme, donc c'est une sorte de trait de personnalité qui consiste à vouloir faire parfaitement bien les choses, et ce mode de fonctionnement très dichotomique, ce qui n'est pas parfait est donc nul. Ce perfectionnisme, dans l'étude de Forsberg, est tout à fait repéré comme étant un élément de la personnalité des sportifs de haut niveau qui est commun et parfaitement superposable aux personnes souffrant de troubles alimentaires. Donc il y aurait une prédisposition à faire du sport d'un côté et avoir un trouble alimentaire de l'autre qui serait préalable aux deux. La même chose se retrouve pour ce qui est de l'insatisfaction corporelle, c'est-à-dire ne pas se trouver assez agréable physiquement ou ne pas se plaire ou plaire aux autres suffisamment est un facteur d'émergence des troubles alimentaires. Mais là, c'est plus le sport ou certains sports qui va exacerber cette dimension, pousser au contrôle de soi, contrôle de l'alimentation, contrôle de l'activité physique, dans le but de contrôler sa silhouette. J'ai trouvé à travers toutes ces études des informations que j'ai résumées ou synthétisées sur ce tableau qui me paraissent très intéressantes à noter. La première, c'est que si on regarde le volume d'entraînement, le volume de pratique sportive, et qu'on compare en fonction de ce degré de pratique l'évolution du risque de troubles alimentaires, on est frappé par une chose. D'abord qu'une personne qui ne fait pas de sport ou très peu est plus sujette dans la population générale à risquer de développer des psychopathologies, quelles qu'elles soient, et en particulier les troubles alimentaires. C'est-à-dire ne pas pratiquer du tout de sport, c'est moins bien que d'en faire un peu. En faire un peu, alors si on définit ça selon les normes de l'OMS, c'est de l'ordre d'une demi-heure par jour en moyenne, c'est-à-dire 3-4 heures par semaine de sport. On commence à parler de sport intensif au-delà de 7 ou 8 heures par semaine, mais évidemment les pratiques sportives de haut niveau sont encore plus importantes. Si on est un pratiquant de bon ou très bon niveau, qu'on a un niveau d'entraînement très élevé, un volume d'entraînement très élevé, alors ce risque de troubles alimentaires est, semble-t-il, directement corrélé à l'intensité de l'entraînement. Et puis, si on entre alors dans les compétiteurs de très haut niveau, c'est-à-dire niveau national ou international, les études sont contradictoires. C'est pour ça que ma courbe est bifide. C'est qu'en fait, certaines études disent plus on grimpe haut dans les niveaux de compétence et de compétition, plus on risque d'être menacé par un trouble alimentaire. Et d'autres études semblent dire qu'à très haut niveau, au contraire, il semble qu'il y ait des facteurs de protection qui se mettent en œuvre. Alors finalement, on est dans l'ambiguïté quant à cette lecture. Quels sont les événements maintenant qui peuvent précipiter l'apparition d'un trouble alimentaire chez les sportifs de haut niveau? C'est encore l'étude norvégienne, mais une plus ancienne, qui a été faite par la même équipe, qui nous donne des réponses un peu plus précises là-dessus. Qu'est-ce qui peut provoquer ou précipiter un trouble alimentaire chez un sportif? Les phases restrictives prolongées, c'est-à-dire que pour des raisons de performance, d'entraînement ou de catégorie de poids ou d'autres natures, lorsqu'un sujet sportif de haut niveau se met à contrôler son alimentation, à restreindre ou à sélectionner son alimentation de façon active pendant suffisamment longtemps, il va enclencher ou déclencher des processus probablement biologiques en grande partie qui vont mettre en route les cercles vicieux des troubles alimentaires. Ça, c'est une des causes les plus fréquemment retrouvées dans la phase qui précède le début de la maladie, une phase restrictive prolongée. Évidemment, et c'est quasiment les mêmes raisons, lorsque une personne se met à se surentraîner, donc va utiliser encore plus ses réserves ou dépenser beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en apporte à son organisme, une accélération, une intensification de l'entraînement peut déclencher un processus de troubles alimentaires. Enfin, et c'est ça qui me paraît aussi très important à noter dans cette étude de 94, c'est qu'il y a très probablement des événements précipitants de l'ordre du traumatisme. Alors le traumatisme physique, bien sûr, la blessure, mais ce n'est pas la blessure en soi qui provoque le trouble alimentaire, c'est qu'elle entraîne un arrêt brutal de l'activité. L'arrêt brutal étant, chez les sportifs de haut niveau, presque toujours associé à la nécessité d'arrêter de manger, en tout cas de restreindre énormément son alimentation pour ne pas grossir. Le choc psychologique, changer ou perdre un entraîneur, paraît avoir une incidence très, très claire. Ou alors, et c'est une façon de faire parfois les trois en même temps, c'est l'arrêt de la carrière, et arrêt sur blessure ou non, qui va être un facteur de précipitation des troubles. Je termine sur cette dernière dia, là j'ai été gentil au niveau de l'horaire. Faut-il s'intéresser à la prévention? Je crois que ça tombe sous le sens. Eu égard à l'incidence des troubles alimentaires dans la population des sportifs de haut niveau, j'encouragerais personnellement à ce qu'on s'intéresse de plus en plus à la prévention dans ce milieu. Et cette prévention doit reposer, bien entendu, sur un dépistage. Et ce dépistage devrait être le plus précoce possible. Vous le savez, plus un trouble alimentaire s'installe, plus il va être difficile à traiter. D'autre part, le dépistage précoce voudrait dire qu'on puisse repérer le plus tôt possible des sujets à risque, des sujets n'ayant que des troubles au départ préalable ou annonciateur. Et ces sujets-là seraient certainement beaucoup plus en mesure d'inverser la tendance, d'être mis à l'abri ou d'être aidé. Je cite au passage un questionnaire de dépistage qui vient d'être récemment validé aux États-Unis, le FAST, Female Athletes Assessment Tool, qui semble très bien remplir cette fonction avec un nombre limité de questions, c'est-à-dire qu'on peut dépister efficacement. Probablement faudrait-il avoir un instrument similaire en France. Nous sommes constitués une petite équipe pour commencer à traduire et adapter ce questionnaire et le valider le plus vite possible. Enfin, dans les bilans réguliers, et s'assurer que la médecine du sport vérifie bien l'évolution de l'IMC, mais aussi peut-être le rapport masse maigre, masse grasse. Évidemment, comment s'alimentent les sportifs. Parfois, ils ont des règles ou des principes extrêmement marginaux et tout à fait dangereux. L'existence ou non de dysménorrhée, vous savez qu'on pense beaucoup à la triade athlétique qui concerne les athlètes féminines, et toutes sortes de mesures qui pourraient guider vers le repérage des sujets en danger. Et puis, à cause de ce qui a été dit dans les études précédentes, je crois qu'il faut savoir sensibiliser les entraîneurs, les intéresser à la question, leur donner envie de regarder ça, de prendre ça en compte dans leur modalité de coaching. Et les athlètes eux-mêmes, je pense qu'une information auprès des athlètes est nécessaire. Dans les catégories de sport à risque, il me semble qu'on devrait informer les jeunes femmes en particulier du fait qu'elles font un sport qui les expose à un danger de santé générale tout à fait majeur. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. J'ai tout de suite plein de questions qui me viennent, mais je vais laisser un petit peu la salle s'exprimer. J'en poserai néanmoins une sur ces facteurs. Tu nous as un peu alléché avec cette échelle et ces facteurs de vulnérabilité, effectivement, pour pouvoir repérer au plus tôt possible les sujets qui seraient à risque de développer ces troubles. C'est vrai que tout à l'heure, avec Auriacombe, on n'a jamais su qui était l'œuf de la poule, à savoir si c'était le sport qui attirait des sujets plus fragiles psychiquement ou, au contraire, si c'est le sport qui en fabriquait, avec notamment, tu as évoqué les facteurs biologiques liés à la surcompétition ou surentraînement. Donc j'aurais aimé avoir quand même ces avis, parce qu'il y a plein de praticiens et de cliniciens ici qui s'attachent à creuser et à chercher pour faire de la prévention. Et donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Donc, oui, c'est vraiment une question pertinente, à savoir, est-ce qu'il faut entrer par une porte ou par une autre ? Mais dans le fond, je serais tenté de dire, toutes sont intéressantes. Il existe des traits de personnalité, comme le perfectionnisme, ou un certain niveau d'anxiété, ou une image déficitaire de soi du point de vue physique, qui pourraient être des traits éminemment repérables par des questionnaires d'ordre psychométrique qui existent déjà et qui sont bien validés. Et si une jeune femme pratiquant un sport de haut niveau à composante esthétique remplissait ces trois facteurs, il faudrait certainement s'intéresser donc aux traits psychologiques préalables dans la prévention. Est-ce qu'il faut faire ensuite une sélection en essayant d'écarter les sujets à très haut risque? Je ne crois pas qu'il faut aller jusque-là, mais il faudrait au moins épauler et surveiller mieux ces gens-là. L'autre dimension, c'est de sélectionner, parce qu'on ne peut pas enquêter de façon très aisée dans toutes les directions, mais quand on met, je dirais, en équation les facteurs de risque, on voit bien quelles sont les populations les plus intéressantes. Donc, dès lors qu'il s'agit d'une jeune femme pratiquant des sports à composante esthétique dont les cycles menstruels, par exemple, commencent à se dérégler, je crois que là, on devrait pouvoir enclencher des processus de surveillance et d'aide qui seraient une prévention très efficace. Une enquête à plus large échelle, et en particulier fondée sur un questionnaire de dépistage validé qui permettrait de scanner très largement dans une population plus importante me paraît être aussi un autre outil, et si on avait ça à disposition, j'espère que ce sera le cas rapidement, je crois qu'on faciliterait grandement le travail des médecins du sport.
Merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont envie de s'exprimer. Donc on va leur proposer un micro si possible.
Bonjour, donc, je suis le docteur Deveau, médecin conseiller en Aquitaine-Gironde pour la jeunesse et les sports. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire là, concernant le suivi des sportifs de haut niveau, puisque actuellement il y a des textes, il y a des fédérations qui s'impliquent dans le suivi médical et diététique des sportifs de haut niveau. Nous avons des plateaux techniques médico-sportifs qui assurent ce suivi. C'est validé en plus par les médecins fédéraux, donc il y a quand même des choses qui sont faites. En Aquitaine, on a mis en place dans chaque pôle Espoir et France un suivi par une équipe médicale, un diététicien, voire un podologue et par les psychologues du CAPS. Donc actuellement, je pense que cette population, certes, est une population à très haut risque puisque les contraintes sont énormes sur le plan alimentaire, mais elle va devenir plutôt à la marge par rapport à d'autres populations dans d'autres sports qui ne sont pas considérés comme des sports entre guillemets. Je pense à la danse, je pense à des équipes qui œuvrent plus dans le marginal, qui ne sont pas tout à fait inscrits dans le haut niveau, dans les structures type familiales, là où il y a vraiment un effort à faire aussi, voire dans des structures privées où effectivement elles s'assurent du minimum. Je rappelle que normalement il est prévu un minimum par un arrêté qui est publié chaque année, qui chaque année est modifié en fonction de l'évolution de la médecine. Et les fédérations, des commissions médicales qui réfléchissent sur la pratique en elle-même, avec des médecins qui sont des médecins de terrain, qui augmentent encore plus le suivi médical par d'autres examens, notamment des examens à visée diététique. Et donc j'espère que votre intervention pourrait être proposé au ministère, et je vous invite à me rejoindre pour qu'on en discute, pour apporter des précisions à ce que vous venez de présenter. Donc ma question, elle était, l'an dernier, vous avez fait une excellente présentation avec des exemples assez affligeants et tristes. Ma première question, c'est que sont-ils devenus dans votre suivi, puisque vous avez assuré le suivi? Et ma deuxième question, c'est: que pensez-vous de la médecine en général et la formation des médecins en général à ces problèmes de dérive concernant le sport intensif, mais non de haut niveau?
Merci, oui. Je suis d'accord. Et je crois que votre remarque semble confirmer l'ambiguïté que donnent les études. Vous savez, plus on est dans un milieu sportif organisé, plus, semble-t-il, on a des chances d'être protégé. Je pense que les sportifs qui pratiquent dans des clubs sans émerger vers au très haut niveau national ou international sont peut-être plus en danger, moins bien surveillés, moins épaulés que ceux qui ont un staff déjà très solide et un suivi médical plus sérieux. Je crois que ça viendrait confirmer cette ambiguïté de la statistique sur le risque des très hauts niveaux. Concernant la deuxième partie de votre question, j'ai un trou de mémoire. Oui, que sont-ils devenus? Alors, c'était pas du tout une esquive. Non, je peux affirmer que plusieurs des personnes qui ont témoigné l'an dernier, que vous avez vues, vont beaucoup mieux, sont pour certains même totalement sortis d'affaires. Et j'en suis ravi. Je dois ajouter que certains autres sont encore en train de se battre avec la maladie et que c'est pas fini pour eux. On le sait malheureusement, et c'est peut-être ce que j'aurais dû dire en introduction, les troubles alimentaires, ça peut être déclenché, provoqué, facilité par des circonstances de la vie, et le sport pourrait en être une, c'est certain, mais c'est pas parce qu'on maîtrise le déclencheur ou qu'on le connaît bien qu'on va pouvoir maîtriser le cours de la maladie. Et malheureusement, certaines personnes vont mettre des années à s'en sortir. Voilà, donc la réponse est que plusieurs, même beaucoup d'entre eux, vont heureusement beaucoup mieux.
Il est bien évident que ce sont des pathologies chroniques et qu'il y a tout un temps, il faudra revenir dans 10 ans peut-être pour avoir des réponses. Docteur Haller a une question au premier rang, puis une autre question au milieu, mais je vois que la dame a déjà le micro, donc rapidement.
Non, moi j'aimerais juste intervenir parce que en fait j'ai fait partie de la présentation du docteur Perroux l'année dernière. Donc c'était pour dire que justement, depuis un an et demi, deux ans maintenant que je travaille avec lui, j'ai développé mes connaissances à ce niveau-là et essayé de faire les liens avec les troubles alimentaires. Et de par ma pratique sportive intensive pendant plusieurs années, je découvre aujourd'hui des choses dont on n'avait pas connaissance il y a quelques années en arrière et que, voilà, en ayant maintenant, en travaillant en collaboration avec des médecins du sport, donc sur Lyon, je m'aperçois aussi que les médecins sont désireux d'augmenter leurs connaissances, d'enrichir leurs connaissances à ce niveau-là, mais que malheureusement, ils n'ont pas les capacités et les compétences pour le faire. Donc c'était pour un peu pour compléter justement ce qui a été dit. Donc si les moyens mis en place sont là et sont à disposition d'un plus grand nombre des médecins de santé, enfin des professionnels de santé, pardon, ça permettra, je pense, au niveau notamment des troubles alimentaires, de permettre à des personnes qui sont dans cette difficulté de vraiment pouvoir en sortir. Mais justement, plus le temps est long pour dépister ces problèmes, plus le temps est long pour en sortir aussi.
Merci pour votre témoignage. Est-ce que vous souhaitez intervenir ?
Non.
Donc, on prend une dernière question, là, au premier rang.
Oui, donc...
Mais c'est vrai que c'est important. Enfin, ce type de réunion contribue à améliorer nos connaissances, à donner des réponses nouvelles, à observer peut-être plus finement les comportements, les évolutions, à trouver de nouveaux facteurs. Quand on parlait de cette échelle-là, c'est vrai que j'ai tout de suite envie de rejoindre son équipe, même si je suis très mauvais en anglais pour la traduire, plutôt pour la piquer. Mais bon, voilà. Nous essayons d'aller dans ce sens-là. Dernière question.
Oui, donc moi j'avais une question plutôt pour Mathieu Dubois de la Barre. Donc vous nous dites que la médecine ne fait qu'avaliser la norme sociale, tout en restant quand même une instance qui permet de sortir de la condamnation morale. Mais ne pensez-vous pas que toutes les démarches mises en œuvre dans le cadre de la démocratie sanitaire participative, puisque ce que vous appelez la norme sociale liée au surpoids ou à la maigreur est quand même traitée dans des politiques de prévention régionales, ne favorise pas ça. C'est-à-dire que pour moi, ça paraît évident qu'il y a un lien entre la médecine et les préoccupations des citoyens, et c'est à travers l'instance de débat comme les conférences régionales de santé qu'on est là pour faire ce lien. Deuxième question, un peu plus originale. J'ai bien compris l'évolution des normes, mais je m'interrogeais sur les normes des nounours. Et pour moi, au 19e comme au 20e, les peluches qui sont destinées aux enfants restent, me semble-t-il, hein, quand je vais dans les magasins, toujours très dodues. Alors comment vous pouvez expliquer ça ?
Déjà... Oui, pas la Barbie, oui. Mais... Alors... Premier point, sur votre première question, je pense que je me suis fait mal comprendre. Je n'ai pas dit que la médecine ne faisait qu'avaliser des normes sociales. J'ai dit qu'un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de sociologues, de philosophes pensaient ça, et que je m'inscrivais justement plutôt en faux par rapport à cette dimension, en disant que de mon point de vue, justement, la médecine permettait de sortir de la condamnation, en partie de sortir de la condamnation morale. Alors, je m'inscris en faux, et en même temps, je pense que, d'une certaine manière, la médecine s'inscrit aussi dans la société, donc elle peut, pas forcément avaliser, mais en tout cas suivre ou comporter des éléments de normalisation, mais probablement pas telle qu'on l'a dénoncée à une certaine époque de manière un petit peu virulente et un petit peu forte, et en particulier pour l'obésité. Je pense particulièrement actuellement que la prise en charge médicale de l'obésité est de ce point de vue-là beaucoup plus un progrès qu'une forme de domination sur l'obèse. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Alors, en ce qui concerne la démocratie participative et la médecine, je pense encore une fois que c'est aussi quelque chose de tout à fait important, c'est-à-dire non seulement la médecine permet de sortir de ce jugement moral, en portant plutôt un jugement entre guillemets technique, mais en plus, si elle inclut des associations, la parole des citoyens, c'est encore quelque chose, c'est encore, encore plus positif. Alors, en ce qui concerne le nounours, là par contre, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, et d'ailleurs qui, dans le bon gros, quand je parlais un petit peu du bon gros, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que
Alors là, je vais vous donner une réponse qui n'est pas tout à fait une réponse de sociologue, qui rejoint beaucoup de représentations aussi de l'éthologie, de l'étude des comportements animaliers. Il s'avère que cette forme rondelette, avec des membres courts, parce que le nounours a des membres courts aussi, et cette démarche pathode, alors le nounours n'a pas de démarche, mais correspond en fait à beaucoup de nourrissons humains, mais aussi également dans le monde animal. Et il y a un certain nombre d'études qui tendraient à montrer qu'on a un comportement positif de protection vis-à-vis de ce genre de physionomie. Donc, alors, je ne sais pas si je réponds complètement par rapport au nounours, mais il est clair qu'un nourrisson, c'est potelé, etc. Il y a quelque chose de l'enfance et ça évoque un sentiment généralement protecteur de la part des adultes et en particulier de la part de ses parents, le nounours étant là pour représenter finalement un petit peu cette dimension-là. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais dans le côté du bon gros, d'une certaine façon, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire que le gros nous rappelle quelque chose du nourrisson, de l'enfant, et donc on peut aussi projeter un sentiment de protection. Voilà. Alors, je suis passé un petit peu à côté du nounours, mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans le fait, effectivement. Voilà. Et en même temps, comme on le soulignait à côté, il y a aussi un modèle qui est le modèle de la Barbie, mais là, on n'est plus dans... C'est je me projette dans ce que je serai future jeune fille, future femme.
Bien, on va remercier à nouveau nos deux intervenants et je pense qu'il est l'heure de faire la pause.